Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et voici l'ultime chance qui nous est laissée de nous rendre tous ensemble à Chambord. Tous ensemble, oui, vous, nous, Olivier Beaumont, David Mechtry et le duc de Saint-Simon. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Musique en mémoire en nouvelle diffusion.
Jean-Luc Rider.
Puis ce fut l'agonie, la mort et l'autopsie. Mais chose à peine croyable, parce qu'il fallait être prudent, Louis XIV n'eut pas d'obsèques. Que craignait-on ? Des crises hostiles ? La colère déchaînée d'un peuple mécontent ? Non, pire que cela. Ce que l'on redoutait sur son passage, c'était un tressaillement de joie, un cri de délivrance, et plus encore que tout, des danses et des chants d'allégresse. Et Massillon, ce jour-là, eut l'audace ou bien le courage de prononcer ces mots fameux devant la dépouille du grand roi.
Dieu seul est grand, mes frères, et voilà donc l'instant où l'homme n'est plus rien de ce qu'il croyait être.
Si Chambord m'était compté, David Mechtry.
Oui, le film de Sacha Guitry avec la mort de Louis XIV, presque en direct ici. On parlera aussi d'un autre film, vous savez qu'Olivier Beaumont est très cinéphile et que La fête commence de Tavernier se passait aussi dans ces années versaillaises ou chambordiennes.
C'est à Chambord que vous rencontrez toute cette semaine Olivier Beaumont, claveciniste. Il nous en fait profiter, ici ou là, dans cette série d'émissions de musique en mémoire, puisqu'il y a tout ce qu'il faut en termes de clavecin à Chambord, et penseur de la musique, puisqu'il est en train de rédiger justement un livre sur le rapport de Saint-Simon à la musique.
Qui va paraître chez Gallimard à la fin de cette année.
Thème du jour, dans ce dernier chapitre de musique en mémoire, la régence, le régent et l'opéra.
Olivier Beaumont, dernière rencontre ici à Chambord, dans ce lieu absolument magique. Et on a hier vu mourir Louis XIV, c'était le 1er septembre 1715. Pour ce dernier volet, autour des mémoires de Saint-Simon, on parlera de la régence. Donc avant l'avènement officiel de Louis XV, arrière-petit-fils du roi, dans quelques années.
Exactement, et dès 1715, Saint-Simon intègre le conseil de régence, donc là il est enfin de tout, on pourrait dire, puisqu'il il parle des gens qui ne sont de rien et qui rêveraient d'être de tout. Là je pense qu'il a enfin une charge officielle à la cour, et il va donc aller ensuite en Espagne comme ambassadeur extraordinaire pour contacter le mariage, entre autres, de Louis XV avec la fille de Philippe V.
C'est un personnage ambitieux, le duc de Saint-Simon, c'est un comte qui a son château à La Ferté-Vidame, et c'est un membre du conseil de régence, c'est-à-dire une sorte de ministre.
Oui, exactement, c'est une sorte de ministre. Je ne sais pas si on peut dire que Saint-Simon était ambitieux. Je pense qu'il a été toujours il a lutté pour le respect des prérogatives des ducs et pairs. Et il ne demandait pas plus que ce qu'avaient droit les ducs et pairs, qui à ses yeux étaient effectivement déjà très, très importants, mais il ne demandait surtout pas moins. C'est-à-dire qu'il y avait le moindre manquement aux écarts qu'on devait aux ducs et aux pairs, il entrait tout de suite en querelle contre ça. Je pense que ce n'est pas dans l'attitude de quelqu'un qui était de haute noblesse comme ça, même si c'était récent en l'occurrence pour Saint-Simon. C'était pas dans son idée d'être ambitieux. Je pense que l'idée de l'ambition, c'était plutôt pour la bourgeoisie fortunée à cette époque-là, mais pas pour Saint-Simon, je pense pas. Donc on va parler bien sûr du régent, donc qui était son ami. Il est toujours très très proche du régent. Il a tendance à lui reprocher beaucoup de choses, mais à l'excuser en même temps tout le temps. Donc il y a une chose un peu, encore une fois, le rapport est un peu curieux avec Philippe d'Orléans. La seule chose qu'ils disent un peu contre lui, c'est qu'il ne dansait pas bien, ce qui pour lui, sans doute, là aussi, par rapport à l'importance de la danse, ce n'était vraiment pas un compliment. Et puis, il lui reproche toujours ses maîtresses, ses débauches, etc. Mais encore une fois, comme je disais à une autre émission, que d'envie en même temps quand on lit ça. Mais il dresse plusieurs portraits du futur régent, très amusants, et un notamment à la Chapelle Royale, où on pense qu'il est en train d'examiner très pieusement un livre de prière, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe. Voici ce que dit Saint-Simon, à l'année 1715. Je me souviens qu'une nuit de Noël à Versailles, où il accompagna, donc le duc d'Orléans, où il accompagna le roi à matines et aux trois messes de minuit, il surprit la cour par sa continuelle application à lire dans le livre qu'il avait apporté et qui parut un livre de prière. La première femme de chambre de madame la duchesse d'Orléans, ancienne dans la maison, fort attachée et fort libre, comme le sont tous les bons vieux domestiques, transportée de joie de cette lecture, lui en fit compliment chez madame la duchesse d'Orléans le lendemain où il y avait du monde. Monsieur le duc d'Orléans se plut quelque temps à la faire danser, puis lui dit « Vous êtes bien sotte, madame Humbert. Savez-vous donc ce que je lisais ? C'était Rabelais, que j'avais porté de peur de m'ennuyer. » On peut juger de l'effet de cette réponse. La chose n'était que trop vraie et c'était pure fanfaronnade. Et il continue ensuite donc sur le régent musicien. « Monsieur le duc d'Orléans aimait extrêmement la musique. Il la savait jusqu'à composer et s'est même amusé à faire lui-même une espèce de petit opéra dont la fare fit les vers et qui fut chantée devant le roi. » Donc cet opéra, c'est Panté, dont on n'a pas d'enregistrement actuellement. On en a fait quelques extraits avec Isabelle Druet, d'ailleurs, quand on a fait ce spectacle en juillet sur Saint-Simon, ici même à Chambord. Mais on a la musique du très joli film, du très beau film de Bertrand Tavernier avec Philippe Noiret et Jean Rochefort sur la Régence, qui s'appelle « Que la fête commence ». Et là, on a donc des extraits de cette musique. Le disque est un peu ancien, l'interprétation est un peu ancienne, mais ça permet tout de même d'entendre cette musique que l'on ne peut pas entendre autrement.
Dans l'arrangement musical d'Antoine Duhamel, la musique de Philippe d'Orléans, régent de France, en 1705, cet opéra Panté, dont nous écoutions l'air pour les grâces et les plaisirs, donc tiré de la bande originale du film Que la fête commence de Bertrand Tavernier, que vous nous recommandez chaudement, Olivier Beaumont, pour entrer aussi dans le monde de ces mémoires de Saint-Simon.
Oui, je pense que le film est très beau, d'abord par la qualité de la réalisation de Bertrand Tavernier, et puis par l'incroyable performance de Jean Rochefort en L'Abbé du Bois, qui est juste absolument exceptionnel, et Philippe Noiret, qui paraît presque être le régent lui-même. Enfin, il y a quelque chose d'admirablement fait. Le film est fait dans les années 70, un peu daté, mais ce n'est pas un reproche à une œuvre d'art qu'elle soit datée. C'est juste qu'on remarque que c'est un film des années 70, mais extraordinairement fait, avec encore une fois des prestations de comédiens magnifiques.
Bertrand Tavernier, est-ce qu'il s'inspire de Saint-Simon pour camper ses personnages ?
Il s'en inspire forcément parce que l'un des documents les plus importants, sinon les plus impartiaux, sur la Régence, c'est bien sûr les mémoires de Saint-Simon. Donc il s'en inspire forcément. Vous savez, c'est la question de Saint-Simon, historien, c'est une question qui a été beaucoup soulevée. Le 19e siècle a été, il y a un livre important qui s'appelle « Saint-Simon considéré comme historien de Louis XIV et donc de la Régence ». Donc on a critiqué sans arrêt le fait qu'il n'était absolument pas crédible et pas fiable comme historien. Je ne suis pas historien, donc je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Je dirais simplement qu'on a envie, quand on lit les mémoires de Saint-Simon, de se dire à chacun sa vérité. C'est-à-dire dans le sens qu'il est très souvent très partial, effectivement, avec bien des gens, mais les autres le sont aussi. Vous ne pensez pas qu'un peu plus tôt dans l'histoire, les mémoires du cardinal de Retz soient particulièrement objectifs non plus. Donc je pense que ce qui est difficile quand on parle de ce siècle, et quand on écrit sur ce siècle, comme toutes les périodes historiques, c'est de ne pas se tromper de perspective. C'est ça qui est très dur. Et Saint-Simon est l'un des angles, l'une des perspectives. Mais on ne peut pas simplement dire qu'il n'était pas historien et que donc ça n'a pas de valeur historique. C'est juste faux, parce que dans bien des cas, c'est une mine de renseignements au contraire, notamment dans les choses où il n'était pas polémique, et notamment en musique, par exemple, où il ne connaissait pas bien la musique, donc il n'avait pas à entrer dans des polémiques musicales où peut-être d'autres personnes seraient rentrées. Donc tout ce qu'il dit sur la musique est souvent extrêmement intéressant et fiable, parce que c'est juste un avis d'un commentateur comme ça, de génie certes, mais qui n'avait pas un intérêt ou un avantage particulier à privilégier tel ou tel récit.
Une amitié donc avec le duc d'Orléans qui est régent à la mort de Louis XIV, l'amitié avec un musicien, et on a parlé de l'importance, Olivier Beaumont, de la danse en particulier dans l'esprit de Saint-Simon.
Oui, l'amitié durait depuis longtemps avec le duc d'Orléans, puisqu'il dit même, dès le début, en 1691, le début des mémoires, il dit nous avons été élevés comme ensemble avec le duc de Chartres, et nous avions une amitié malgré la différence de rang, puisqu'effectivement le duc de Chartres était petit-fils de France, donc fils de monsieur, donc du frère, le neveu de Louis XIV, donc effectivement pas du tout le même rang à la cour que Saint-Simon.
Duc de Chartres qui devient duc d'Orléans et régent Philippe d'Orléans, le musicien qu'on a entendu là. Il faut bien se sortir de ces titres qui changent à chaque mort.
Absolument.
De,
c'était donc
de personnage.
Le neveu de Louis XIV, et je pense que dans mon livre je ferai une petite table au début pour tout simplement de rappel pour tout le monde qui est Monseigneur, qui est le duc de Bourgogne, qui est le duc d'Orléans. Je pense que c'est normal parce que quand on est dedans toute la journée, on comprend vite, mais on peut, je pense que ça aidera aussi le récit que je ferai de la musique chez Saint-Simon si on a une petite table tout simplement des différents personnages principaux qu'on rencontre chez lui.
En 1715, donc pour le début de la Régence, le petit Louis XV, l'héritier du trône, lui n'a que 5 ans si je me rappelle bien.
C'est ça, exactement. Il est né en 1710, donc évidemment il ne peut pas régner, la majorité des rois est effectivement plus tard. Donc la cour quitte immédiatement Versailles, Louis XV va à Vincennes au début, puis ensuite aux Tuileries, et le régent s'installe au Palais Royal, qui est la demeure habituelle des Orléans depuis longtemps. Et il faut savoir qu'au Palais Royal, on a juste, jouxtant le Palais Royal, on a l'Opéra, qui était en fait sur l'emplacement de l'actuelle Comédie Française à Paris. Donc le régent avait un petit passage pour aller comme ça de chez lui à l'Opéra. Alors Louis XV donc, est à Vincennes, puis ensuite aux Tuileries. Et puis en 1722, on prend la décision de revenir à Versailles, la cour revient à Versailles, et on a là un récit très, très touchant de Barbier qui raconte comme Louis XV, qui avait donc 12 ans à cette époque-là, en 1722, est heureux de retrouver les lieux de sa première enfance. Donc il épuise la cour, il court dans toute la galerie des glaces, il va dans le parc un peu partout, donc il épuise toute la cour qui essaie de le suivre. Et c'est un récit très touchant d'un gamin de 12 ans, comme ça, qui court un peu partout. Et c'est le moment précis où est éditée la pièce de François Couperin que je vais jouer maintenant, qui s'appelle Les Lys naissants, 1722, donc le retour de la cour à Paris. Vous savez, pour un musicien, quand on écrit quelque chose sur les Lys, même s'il y a une pièce après Les Lys naissants chez Couperin qui s'appelle Les Roseaux, on peut dire donc c'est plutôt des œuvres sur les plantes, mais en même temps, les Lys naissants en 1722, Louis XV qui revient à Versailles, on a du mal à penser que ça ne peut pas être un portrait de Louis XV enfant. Et comme j'ai joué hier l'Auguste, donc le portrait de Louis XIV, monarque vieillissant, une pièce très grave, écrite un peu dans le grave, très dense aussi comme harmonie. On a beaucoup d'arpèges figurés, des harmonies très développées, un style luthé important. Et là, au contraire, on a une pièce dans l'aigu, avec plutôt à une voix, ce sont des arpèges à une voix, mais très courts, avec un ornement à chaque fois sur la troisième note. Une pièce très fine. fine, très délicate, qui donne un côté de l'enfance royale.
Les lys naissants, fleur de lys de la couronne de France, celle certainement de Louis XV, le jeune roi en 1722, lorsque paraît ce livre de pièces de clavecin de François Couperin, dont vous nous avez interprété encore exclusivement pour cette série autour de Saint-Simon, Olivier Beaumont, la musique dans cette salle de chasse au rez-de-chaussée du château de Chambord, où j'ai vraiment le plaisir d'être reçu par vous, Olivier Beaumont. La musique au temps de Louis XV, on en a des traces dans ses mémoires du duc de Saint-Simon.
Saint-Simon évoque la musique sous Louis XV, notamment les ballets qu'avait dû danser le tout jeune Louis XV à Paris. Et ça avait été décidé par son précepteur qui était le duc de Villeroy, parce qu'il voulait reproduire ce qui s'était passé pour Louis XIV dans sa jeunesse, qui s'était produit beaucoup dans des ballets, sauf que Louis XV n'avait aucun goût pour ça et qu'il a manifesté visiblement aucune envie pour être sur scène. Donc voici ce que dit Saint-Simon. Il dit « Le maréchal de Villeroy, adorateur du feu roi jusque dans les bagatelles, est très attentif à les faire imiter au roi de bonne heure, lui fit danser, donc à Louis XV, lui fit danser un ballet, plaisir qui n'était pas encore de son âge, et lui ôta pour toute sa vie, par cette précipitation, le goût des bals, des ballets, des spectacles et des fêtes, quoique ce divertissement eût tout le succès qu'on s'y put proposer. Mais le roi se trouva excédé de l'apprendre, d'essayer les habits, et encore plus de le danser en public. » Donc ça a été, un échec dans l'éducation de Louis XV, qui a gardé effectivement après une sorte d'horreur pour le spectacle et pour le fait de paraître en spectacle, à l'opposé sans doute de son arrière-grand-père.
Là c'est en 1720, donc un petit garçon de 10 ans qui ne s'intéresse pas encore au ballet, alors que son père bien sûr était réputé dans le royaume pour l'un des meilleurs danseurs.
Et donc, on peut entendre là, on va entendre maintenant un très bel enregistrement de Christophe Coin, des Folies de Cardenio, qui est un ballet de la Lande, qui est l'un des tout derniers qui est dansé Louis XV, donc en 1721, je pense. Et on a une pièce magnifique, donc qui devait figurer, donc on disait figurer, c'est qu'il arrivait costumé pour quelques entrées qu'il a dû danser. Mais apparemment, visiblement, il a été même énervé par les répétitions, ça ne l'intéressait pas, il n'avait qu'une hâte, c'est que ce soit fini. Donc, même si le jeune Louis XV était excédé par ses répétitions, il se trouve que nous, on a la chance d'avoir une belle œuvre musicale parce que c'est l'un des plus beaux ballets de la Lande et on a ce cadeau par-delà les années qui nous a été fait de cette musique magnifique.
Thank you.
le début de ses Folies de Cardenio, ballet de Lalande, écrit donc pour le tout jeune roi qui n'est pas encore régnant en 1721. Olivier Beaumont, vous nous le racontiez, un roi Louis XV qui s'intéresse beaucoup moins à la danse que son père, mais ça fait partie de son éducation, il faudra qu'il s'y fasse.
Donc nous revenons maintenant sur le régent, puisque c'est la personnalité principale décrite par Saint-Simon au moment de régence. Il faut signaler que les mémoires s'arrêtent juste en 1723, au moment où le régent meurt brutalement, justement. Et ensuite, donc, Saint-Simon est évincé du conseil de régence, visiblement, il sortit de la vie publique, il partage son temps entre son château de la Ferté-Vidame et Paris, et il commence beaucoup plus tard à rédiger ses mémoires. Alors on a un texte extraordinaire de Saint-Simon sur l'opéra, encore une fois cette idée toujours pour Saint-Simon que l'opéra est un peu un monde dépravé et que encore une fois les chanteurs ou les chanteuses sont assimilés à des prostituées, c'est quand même une chose inimaginable qu'il faut souligner pour dire à quel point on est loin aussi du mode de pensée de cette société. Alors la scène se passe en 1717 au Palais Royal à Paris, donc la demeure du régent Philippe d'Orléans, et lui il est un grand amateur d'opéra, le régent, puisqu'il en a composé lui-même, on l'a vu avec Panté tout à l'heure, et il va à l'opéra très souvent, même quelquefois il hâte la fin d'un conseil de régence pour ne pas louper le début d'une représentation. Et donc il pouvait accéder à sa petite loge à l'opéra, donc à couvert et de plein pied, c'est-à-dire depuis son appartement de Palais Royal, il allait directement dans sa loge à l'opéra sans passer par une vie publique, on pourrait dire. Et alors voici ce que dit à un moment Saint-Simon, le régent veut l'obliger à venir à l'opéra, pas du tout pour écouter une représentation, voir un bel ouvrage lyrique, mais pour parler de politique et de religion. Et alors là, bien sûr, Saint-Simon s'offusque, il dit « À l'opéra, monsieur, m'écriai-je, et quel lieu pour y parler d'affaires? Parlons-en ici tant que vous voudrez, ou si vous aimez mieux aller à l'opéra, à la bonne heure, et demain, ou quand il vous plaira, je reviendrai. » Mais le régent ne se laisse pas convaincre facilement, malgré les bons arguments. Et Saint-Simon continue « Je le suppliais de songer qu'il était impossible de n'être pas détourné par le spectacle et par la musique. » Qu'en un mot, l'opéra était fait pour se délasser, s'amuser, voir, être vu, et point du tout pour y être enfermé à y parler d'affaires, et s'y donner en spectacle au spectacle même. J'eus beau dire, il se mit à la fin à rire, prit d'une main son chapeau et sa canne sur un canapé, moi par le bras de l'autre, et nous voilà allés. En entrant dans sa loge, il défendit que personne n'y entrât, qu'on l'ouvrît pour quoi que ce pût être, et qu'on laissa approcher personne de la porte. C'était bien montré qu'il ne voulait pas s'exposer à être écouté, mais bien montré aussi qu'enfermé là avec moi, qui n'était pas un homme de spectacle et de musique, il y était moins à l'opéra que dans un cabinet en affaires. Alors c'est un texte, je trouve, fondamental. Il faut signaler qu'à cette époque-là, d'une part, la salle était éclairée. C'est un moment très important dans l'histoire du spectacle, au moment où on éteint la salle, je pense dans le courant du XIXe siècle. C'est-à-dire que la salle est éclairée, donc le spectacle est autant dans la salle que sur scène. Et quand on dit cette phrase extraordinaire, l'opéra est fait pour s'amuser, se délasser, voir et être vu, tout est dit, c'est qu'on va à l'opéra pas seulement pour voir, mais pour être vu. Donc le rôle social, le fait de savoir que monsieur un tel ou madame un tel a été à l'opéra dans sa loge, c'est extrêmement important. Donc on est allé pour se faire voir. Et du coup, Saint-Simon proscrit, on pourrait dire, déplore l'attitude du régent parce qu'il trouve qu'à l'opéra, on peut s'amuser, voir, être vu, mais ne pas se donner en spectacle au spectacle même, formule littéraire magnifique, c'est-à-dire qu'effectivement le fait de parler politique au vu de tous, politique et religion, tout le monde allait voir le régent et Saint-Simon discuter, donc il se donnait en spectacle au spectacle même. C'est vraiment c'est un texte extrêmement important, je trouve, de Saint-Simon, et je vais intituler mon livre d'ailleurs « À l'opéra, monsieur !» sous-titre « La musique dans les mémoires de Saint-Simon », parce que je trouve cette exclamation de Saint-Simon magnifique, « À l'opéra, monsieur !» Quelle idée incroyable.
Plus ça montre presque plus de respect pour la musique qui est jouée à l'opéra de la part du duc de Saint-Simon que du régent lui-même qui est musicien.
C'est exactement ça, c'est là où les rôles s'inversent, vous avez tout à fait raison, où là on a Saint-Simon en défenseur d'une sorte de respect du spectacle qui semble ne pas soucier le régent qui pourtant lui est grand amateur d'opéra. Donc c'est là où on voit que très souvent chez Saint-Simon tout n'est pas tout blanc et tout noir, et le fait qu'il dise qu'il ne s'intéresse pas à ça, il le défend de temps en temps, en même temps pour lui c'est lié à une dépravation, à une débauche, donc on a cette richesse incroyable chez Saint-Simon. Et ce qui m'a intéressé moi dans ce travail sur Saint-Simon, que je vais presque terminer à la fin de cette résidence à Chambord, c'est bien justement que ce qu'il nous dit sur la musique, on n'a pas de révélation musicologique, on ne va pas apprendre des points très précis comme on peut apprendre chez certains commentateurs, ou même d'ailleurs dans les Mercure Galant ou les Mercure de France. Mais en revanche, c'est plutôt des perceptions différentes de la musique plus que des connaissances précises. Mais c'est en ça qu'il est intéressant et irremplaçable sur la musique, parce qu'il nous apprend comment les gens écoutaient ou comment les gens entendaient cette musique, hein, comment ils vivaient les moments musicaux, ce qu'ils y faisaient. Donc ils faisaient leurs petites affaires en même temps où la musique jouait. Qu'est-ce qui se passait à la mort du roi, par exemple, tout ce journal musical? Qu'est-ce qui se passait pour le régent de l'opéra, le goût de l'opéra qui entravait presque ses activités politiques? Donc tout ça sont des choses qui ne sont pas dites ailleurs que chez Saint-Simon et qui en plus sont dites avec ce style unique et absolument irremplaçable de Saint-Simon qui en fait une sorte de d'étoile brillant au firmament de la littérature française, mais d'étoile complètement unique.
Chambord, lors de la fermeture du public, lundi 22 septembre, 18h. Yannick Mercoirol, on quitte l'esplanade du château où résonnaient des sons de trompe de chasse il y a quelques jours. C'est l'endroit des concerts, des musiques. Il y a des festivals musicaux dans ce château organisés à Chambord?
Oui, oui, absolument. C'est effectivement dans cette cour, dite cour de la chapelle, puisqu'elle jouxte la chapelle qui est elle-même au deuxième étage, qu'on organise chaque été un assez gros festival de musique hein, de 15 jours avec quasiment autant de concerts devant le château de Chambord.
Et là, vous avez eu un claveciniste en résidence, l'écriture d'un livre sur un mémorialiste de l'époque de Louis XIV, Louis XV, Yannick Mercoirol. Est-ce que la musique ancienne a une place particulière dans ce festival de musique ou dans les activités que vous organisez?
Oui, nécessairement, puisque Chambord est le joyau Renaissance mondial, d'ailleurs hein, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc effectivement, dans le festival, chaque année, on met un point d'honneur à ce que la musique ancienne soit représentée. Musique médiévale, musique renaissance, puis après évidemment musique baroque et classique. Mais l'idée n'a jamais été de construire un festival, par exemple, de musique renaissance, ce qui aurait été possible. On ne l'a pas fait pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a en France un château magnifique qui s'appelle le château des Couans, qui est vraiment le centre de la renaissance dans notre pays, et qu'il nous semblait que voilà, les choses existaient déjà, et que donc il n'était pas très utile de les dupliquer. Et puis la deuxième raison, qui tient aussi profondément à Chambord, c'est que même si bien sûr c'est un château de la Renaissance, un château voulu par François Ier, c'est un château qui s'inscrit comme quasiment tous les monuments d'ailleurs dans une diachronie. On sait assez peu par exemple que Louis XIV a passé plus de temps que François Ier ici, que toute l'enceinte basse que vous voyez là, à travers la porte.
Une sorte de rempart qui entoure le château.
Exactement, c'est l'œuvre de Louis XIV, que une bonne partie de la décoration intérieure est l'œuvre du comte de Chambord, donc beaucoup plus tard, hein, au XIXe siècle. Donc bien sûr que c'est un château marqué par la Renaissance, mais c'est un château qui s'inscrit aussi dans le temps, qui a été respecté hein, par les souverains qui ont suivi François Ier, mais qui a été augmenté, si je puis dire, par des passages successifs. Et donc l'idée consistait sur ce festival plutôt à offrir au public une variété de répertoires, et chaque année finalement dans ce festival on peut entendre de la musique médiévale jusqu'à de la musique contemporaine. À chaque fois, chaque édition, on a tenu aussi à ce que la musique contemporaine soit présente, en passant évidemment par tout le grand répertoire romantique, classique, baroque, si je fais ça à reculons. Donc voilà, je dirais que on est lié à la Renaissance profondément, mais que dans l'ensemble d'ailleurs de notre programmation culturelle, on travaille sur des chants que j'appellerais des chants discriminants de la Renaissance. Le texte, qui est évidemment un moment essentiel à la Renaissance, ne serait-ce que par l'invention de l'imprimerie, les beaux-arts, bien sûr, hein, que François Ier amène d'Italie avec lui lors de son inscription au pouvoir, 500 ans l'année prochaine, puis évidemment la musique. Donc on essaye de se retrouver, d'avoir cet écho par rapport aux chants importants de la Renaissance, mais en les déplaçant dans l'ordre du contemporain, parce que c'est important que le monument vive dans son temps.
La
La musique, mais aussi les autres arts, donc Yannick Mercoirol. La résidence ici d'un artiste, c'est quelqu'un qui vient travailler, qui est écrivain, qui a le bonheur de pouvoir loger au château pendant 3 mois. Comment se passent les choix ?
D'abord, je tiens à préciser peut-être 2 choses. La première, c'est qu'il y a une sorte d'effet paradoxal assez amusant que d'inviter à résider vraiment, hein, parce que c'est une résidence vraiment enfin, les gens habitent ici dans le château, hein, il y a un appartement de résidence au 2e étage, et c'est assez amusant de les inviter à habiter un château qui a été si peu habité tout au long de son histoire. Mais là aussi, il y a encore un écho au fait de créer in situ. Alors, pas du tout nécessairement en rapport d'ailleurs avec Chambord, hein. Les artistes viennent et ont leur propre projet, mais c'est un écho, presque un clin d'œil à des créations qui avaient lieu lorsque François Ier venait, hein, résidences parfois assez courtes, souvent assez courtes, mais durant lesquelles la musique notamment était très présente. Et puis évidemment il y a le grand moment, Lully Molière, hein, la création en 1669 de Monsieur de Pourceaugnac et l'année d'après du Bourgeois Gentilhomme. Donc il y a aussi quand même une forme de légitimité, hein, à renouveler ces moments de création. Et puis, 2e élément, c'est une résidence qui est pluridisciplinaire. Vous parliez des écrivains, et notamment d'Olivier Beaumont, qui est avant tout sans doute un claveciniste, mais qui vient ici pour écrire. On a eu également des plasticiens, on a eu un compositeur, hein, allemand d'ailleurs, Philipp Mainz. Donc on a des gens d'horizons culturels très différents. Et le choix, il se passe de manière, j'allais dire, très naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commission, etc. On a trop peu de résidences pour mettre en place une machine administrative qui serait sans doute assez lourde et à gérer pour nous. Elle se passe sur projet, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des artistes d'horizons différents qui à un moment ont un projet pour lequel ils aimeraient résider à Chambord, et après évidemment selon leur l'intérêt qu'ils représentent à nos yeux, eh bien nous les invitons comme Olivier à venir ici. Dans le cas d'Olivier, par exemple, il a été, je crois, lors du 2e festival de Chambord, hein, il a été invité pour un récital de clavecin, très traditionnel, j'allais dire, et c'est tout simplement dans le durant le dîner qui a suivi qu'Olivier m'a fait part de ce projet fou hein, d'écrire sur la musique dans les mémoires de Saint-Simon, et où finalement, de fil en aiguille, on en est venu à se dire que ce serait formidable de l'avoir ici en résidence pendant 3 mois, c'était 3 fois 1 mois, pour l'aider à avoir la concentration, l'espace nécessaire à la réalisation de ce projet, et puis qui a donné beaucoup de choses, des récitals, des concerts-conférences, des masterclass qu'il a pu donner ici à la faveur de ses habitations du château.
Une résidence qui est une sorte d'ermitage aussi, puisque pour lui qui n'a pas de véhicule propre, il me l'a raconté, il était vraiment isolé du reste du monde, loin de son Paris habituel. Vous-même qui dirigez les affaires culturelles de Chambord, Yannick Mercoirol, dans ce sens-là, vous devez être un peu en anachronie justement avec ceux qui s'occupent du tourisme. On est dans cette salle, on entend beaucoup de touristes passer qui restent quelques minutes ou quelques heures au maximum. Et donc eux, ils ont une vision très parcellaire de Chambord. Donc l'idée de la culture ici, c'est de prolonger ce temps.
Écoutez, je dirais que cette idée, ce serait un long débat, mais en tout cas, elle est, pour aller vite, double. La première chose, c'est qu'une programmation culturelle, elle est toujours liée à un lieu. Et donc, je dirais que cette programmation, au départ, je pense aux lectures, par exemple, n'est pas forcément immédiatement dirigée vers ce public-là. Ce public qui, comme vous le dites, pour beaucoup, hein, les groupes, notamment, passent très vite dans le château. On a peu le temps, un parcours qui est minuté. Mais dans un deuxième temps, à l'inverse, je dirais, notamment pour les expositions, ce serait aussi le cas pour les concerts, mais pour les expositions, c'est plus net, c'est aussi l'idée de susciter une rencontre. Bien sûr que les gens, les touristes, les visiteurs de Chambord ne viennent pas, à quelques rares exceptions près, pour l'exposition d'été que nous consacrons cette année à Philippe Cognier, l'année dernière à Alexandre Orlan ou à Robert Roll l'année d'avant, mais c'est aussi ça la démocratisation culturelle. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée, encore une fois très modeste, hein, et il faut être très lucide sur ces questions-là, mais de peut-être de temps en temps susciter une rencontre. C'est-à-dire les gens viennent pour visiter un château, ils vont le visiter, mais peut-être qu'en passant au deuxième étage, ils vont s'arrêter quelques instants, lire quelques cartels, regarder quelques œuvres. Peut-être que à la faveur de leur passage en juillet, où ils n'avaient absolument pas prévu de rester le soir, eh bien, ils vont voir la programmation, ils vont se dire « Tiens, si j'allais écouter Vanessa Wagner, Tigran Amassian, l'orchestre de Tours avec Nicolas Angelich sur le deuxième de Rachmaninoff. » Et ça fonctionne. On vend des catalogues. Quand je passe dans l'exposition, je vois toujours des gens en train de regarder des tableaux, en train de lire des cartels. On a 10-15% du public du festival qui est un public de touristes, hein, donc hors de la région centre et de la région parisienne, qui sont les deux bassins traditionnels de nos publics. Et je crois que ça, c'est très important pour un établissement public national, ce qu'est Chambord, que d'avoir cette conscience-là, assez aiguë, hein, de ce qu'on appelle la démocratisation culturelle, et à l'inverse, je dirais, de lieux extrêmement signifiants, c'est-à-dire par exemple un centre d'art contemporain, qui est vraiment un lieu qui est dirigé vers un public très précis, qui est déjà un public qui connaît l'art contemporain. Ici, on a, pour une exposition d'été, 500 000 personnes qui voient l'exposition virtuellement, potentiellement plutôt. Alors, sur les 500 000, combien vont la regarder, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que certains vont faire cette rencontre-là et que ça, c'est extraordinairement important.
Un dernier mot, Yannick Mercoirol. Vous avez cité Lully et Molière qui sont venus ici créer deux œuvres qui sont restées dans les siècles, Monsieur de Pourceaugnac et surtout Le bourgeois gentilhomme. Qu'est-ce qu'on sait des musiciens qui ont pu vivre dans les cours qui se sont suivis dans ce château?
Écoutez, on en sait pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que Chambord manque d'archives. Beaucoup d'archives ont été perdues, brûlées lors de la Commune. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme, enfin, un des charmes que je trouve, moi, formidable de ce château, c'est que, par exemple, on n'en connaît pas l'architecte. Et qu'on doute, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'il y ait eu un architecte véritable. Mais on n'en sait rien, parce qu'on manque d'archives. Et de la même manière, on manque d'archives cruellement sur la présence des musiciens à la cour, qui ils étaient, etc. Alors, évidemment, c'est plus documenté en ce qui concerne le bourgeois. Parce que Molière et Lully étaient là. Alors après, avec un certain nombre de mythes, Lully qui aurait cassé un clavecin lors d'une de ses énièmes crises de colère. Sur la cour de François Ier, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait les différentes musiques, hein, qui étaient présentes à la cour, la musique de lever du roi, la musique de chambre, la musique d'écurie, etc. Et on a la chance, pas très loin d'ici, à Tours, d'avoir en la personne de Denis Raisin d'Adre, un éminent professeur et surtout directeur artistique d'un des meilleurs ensembles de musique renaissance en France, qui est Douce Mémoire. Et Douce Mémoire est très liée au château, ils viennent très très souvent, ils sont venus justement, il y a quelques mois, enregistrer un disque sur la musique à la cour de François Ier, disque qui sortira au printemps prochain, en février exactement, en février 2015, accompagné de, c'est plus qu'un disque, c'est-à-dire c'est vraiment un CD-livre, enfin, avec justement les, parmi les dernières recherches consacrées à ces questions-là, et qui prouvent que à Chambord même, il y a eu de la musique, et une musique extrêmement réglée, comme dans les autres châteaux que fréquentait la cour, qui, comme vous savez, était itinérante hein, à l'époque.
Et très musicale, la musique était une des activités les plus importantes des rois.
C'était un rituel auquel aucun roi ne pouvait déroger. Hein. Fût-il peu mélomane, la musique avait une dimension sacrée, évidemment parce qu'il y avait de la musique religieuse, mais même la musique dite païenne, qui pouvait même être paillarde au XVIe siècle, faisait partie de la vie de la cour, et c'est précisément pour rebondir sur la question d'avant, l'un des intérêts qu'on avait à accueillir Olivier ici, hein, c'est qu'il puisse parler de la musique chez Saint-Simon dans cette perspective-là aussi, qui est une perspective presque plus sociologique ou socio-historique, j'allais dire, que proprement musicale. Alors dans le cadre de Douce Mémoire sur la musique au temps de François Ier, ce sera aussi extrêmement musical et musicologique, et je pense que ce sera très intéressant parce que finalement, à l'exception d'une thèse, je crois, peu de choses ont été écrites sur la musique de cette époque, également parce qu'elle a été très décriée et oubliée, hein, finalement, dès l'âge classique. La musique renaissance a été très vite déconsidérée, et ça fait bon, maintenant quelques années qu'elle est considérée à nouveau en France et en Europe. Mais finalement, ce sera un apport très intéressant pour nous aussi que de voir que, eh bien, lorsque le roi venait en petite compagnie, avec ce qu'on appelle la petite bande, mais aussi avec la cour au grand complet, hein, il y a eu quelques séjours, peu, mais au moins deux séjours de François ici, avec quasiment 2000 personnes. Hein, il faut s'imaginer qu'il y avait des campements devant, parce que le château était trop petit pour accueillir tout ce monde-là. Et là, il y avait évidemment toujours musique, et une musique extrêmement précise et réglée.
La grande écurie et la chambre du rouet.
Exactement, exactement. Et donc, ce qui sera intéressant dans ce projet, dans ce disque qui va sortir, c'est qu'il y a des choses qui n'ont quasiment jamais été enregistrées, ou en tout cas qui ont été déchiffrées à nouveau et transcrites par Denis Raisin d'Adre pour son ensemble. Et ça nous donnera une idée beaucoup plus précise de ce qu'était effectivement la musique de chambre, la musique de la chambre du roi, bien sûr, la musique des écuries, à quel moment on la jouait et dans quel souci, j'allais dire.
Thank you.
Quittons là David Maistri et Olivier Beaumont. Laissons-les dans leur vie à Chambord. Regardons-les de loin feuilleter à l'opéra, monsieur, la musique dans les mémoires de Saint-Simon, le livre que Olivier Beaumont vient de faire paraître, Collection L'Infini, chez Gallimard. Et ensemble, remercions Gérald Liestand pour sa réalisation, Isabelle Watson pour son assistance à la production, Musique en mémoire, oui, même à Chambord. C'est une proposition de Johnny Frieder. Vous écoutez Espace.